les sciences sont une source inépuisable d'étonnement, de fascination, de découverte ou d'interrogation. Embarquez dès maintenant pour un nouveau voyage au cœur des sciences. Bulle de Science revient dès la rentrée avec de nouvelles chroniques scientifiques. Pour l'instant, on vous propose une rediffusion de notre chronique Planète Num consacrée à la déconnexion numérique. Comment le numérique change-t-il notre quotidien ? Une question et plusieurs réponses dans Planète Num, l'émission qui s'interroge sur la place du numérique dans notre société. La chronique d'Altech, chaque quatrième mardi du mois, sur Radio B. Est-ce que vous connaissez ce sentiment qui arrive souvent au retour des congés ? Vous ouvrez votre boîte mail et vous vous retrouvez avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'emails à devoir traiter. Pas facile le retour de vacances. Ou bien quand vous avez une to-do list, ou une liste de choses à faire, qui est longue comme le bras, et l'impression que tous vos interlocuteurs habituels se sont donné le mot exprès pour vous appeler aujourd'hui et maintenant, quand vous avez 36 000 urgences à gérer. Si c'est souvent votre cas, rassurez-vous, vous êtes loin d'être le seul ou la seule dans cette situation. Car oui, au même titre que d'autres ressources comme l'eau, l'or ou les terres rares de nos smartphones, il semble que l'attention personnelle soit une denrée de plus en plus rare et donc de plus en plus convoitée. Surcharge informationnelle, infobésité, dispersion, zapping, voire abrutissement. Tous ces termes, en fait, ils expriment ce même sentiment, désagréable il faut bien le dire, qu'on ne parvient plus à faire face aux multiples informations, sollicitations, notifications, et que nous perdons petit à petit notre capacité de concentration. Comme on est dans une chronique qui s'appelle Planète Num, vous me voyez venir, les technologies numériques sont bien loin d'avoir amélioré ce phénomène, qui pourtant ne date pas d'hier. Alors loin d'être anodine, la question de l'attention personnelle est au plein cœur de la mutation numérique. Pour cette dernière chronique de la saison, on va essayer avec Valérie Poncin, ma collègue. Bonjour Valérie.
Bonjour.
On va essayer de vous donner envie de vous déconnecter un petit peu cet été. Alors Valérie, on le disait à l'instant, la raréfaction de l'attention, c'est pas un phénomène qui est apparu avec les technologies numériques. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a été amplifié par ces nouvelles technologies.
Oui, c'est tout à fait juste. En fait, au fil du temps, l'apparition des nouveaux moyens de communication, comme l'imprimerie, la radio, le téléphone, la télévision, l'Internet, ont accru petit à petit et de plus en plus deux choses. La capacité de diffusion des informations et aussi la quantité d'informations que l'on reçoit quotidiennement.
Pour dire les choses clairement, en fait, aujourd'hui, on reçoit et on doit jongler avec beaucoup plus d'informations que, par exemple, une personne qui a vécu au début du XXe siècle.
Oui, en étant un petit peu caricatural, on peut comparer le niveau d'information avec, au début du XXe siècle, le journal, le bouche à oreille, éventuellement le téléphone, comme seul moyen d'information. Alors qu'aujourd'hui, avec Internet, le smartphone, la radio, la télévision, avec les chaînes d'infos en continu, les différentes applications, les objets connectés, forcément, ça n'a plus rien à voir.
Donc une des premières explications pour cette surabondance d'informations, cette infobésité, c'est donc la multiplication des moyens de communication. Est-ce qu'il existe d'autres causes pour expliquer finalement cette raréfaction de l'attention personnelle ?
Oui, il y a plusieurs causes principales qui viennent de cette évolution des technologies. Il y a l'instantanéité de l'information. Avant, l'information, on l'avait, ça prenait plusieurs heures pour l'avoir, plusieurs jours ou plusieurs semaines, alors qu'aujourd'hui, on l'a quasiment instantanément, en quelques secondes ou quelques minutes. Même pour un événement qui s'est déroulé de façon très éloignée, à l'autre bout du monde. Et puis aussi, il y a la quantité de moyens d'accès qui est souvent très important et gratuit.
Et la quantité d'informations, pour vous donner quelques chiffres qui sont quand même assez délirants, YouTube par exemple, la plateforme de vidéos en ligne, c'est à peu près 300 heures de vidéos mises en ligne chaque minute. Spotify, Deezer, les plateformes pour la musique à la demande, c'est entre 30 et 35 millions de morceaux. Et le Google qu'on connaît tous, c'est à peu près 30 000 milliards de pages indexées. Donc pour vous donner un peu l'idée de ce que ça représente.
Ouais,
voilà,
ouais,
tout à fait.
Alors, il y a une autre cause importante qui est la sursollicitation quotidienne avec tous les objets qu'on a sur soi ou très près de soi, donc les smartphones, les objets connectés, l'accès aux chaînes d'information en continu. Et comme on les a avec nous, on a tendance à les consulter et du coup, on a une espèce de sursollicitation permanente. Mmh. Et pour finir, on peut dire que... les forts enjeux commerciaux qui sont autour de ça entraînent une compétition féroce entre les acteurs du web, dont le fameux GAFAM, pour arriver à capter l'attention des internautes et ensuite la revendre aux annonceurs.
Ouais, parce que du coup, il y a une motivation financière derrière, hein, marketing.
Mmh, bien sûr.
Je voulais juste vous lire une citation de l'ancien patron de TF1 qui avait fait beaucoup de bruit en 2004. Alors, j'ouvre les guillemets.
Il y a déjà 14 ans.
Ouais. Voilà, c'est ça. Qui date un peu, mais qui donne à réfléchir. Alors, ouvrez les guillemets. Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages, sous-entendu publicitaire. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Alors cette expression, elle est un peu coup de poing, je trouve, temps de cerveau disponible, donc chacun prendra le temps d'y réfléchir.
Oui, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Hein. Même si les moyens d'info n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui, on en avait beaucoup parlé
c'est
déjà.
En 2004, on n'avait pas forcément encore l'ampleur des smartphones, par exemple.
Ouais. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention aujourd'hui. Et on ne convoite plus nécessairement l'information pour elle-même, mais la capacité à utiliser et traiter cette information. C'est ça qui est convoité aujourd'hui, parce que ça s'est raréfié, comme on l'a dit au début.
Voilà. Alors, on ne va pas être mauvaise langue non plus. Il y a quand même des aspects qui sont très positifs via ces nouvelles technologies. La multiplicité des canaux, comme on parle pas mal des fake news, c'est quand même important de pouvoir consulter différentes sources pour vérifier une information. La rapidité de circulation des informations, c'est quelque chose qui est utile aussi. Enfin, on pense aux cas d'urgence comme les accidents, les catastrophes naturelles ou les attentats. Mais on l'a dit au début de cette chronique, il y a une victime dans cette histoire. Enfin, il y en a en tout cas une principale, c'est le déficit de l'attention. Valérie, comment est-ce que ça se manifeste, j'ai presque envie de dire physiologiquement.
Oui, physiquement,
comment est-ce que ça se manifeste sur nous, en fait, ce déficit d'attention?
Alors, déjà, avant d'en parler, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas tous sollicités de la même manière et on ne réagit pas tous de la même façon à cette sur-sollicitation. On n'est pas égaux ou pas sensibles tous de la même façon. Il y a plusieurs effets émergents de cette infobésité. D'abord, on peut dire le sentiment d'incapacité à traiter toutes les informations. Par exemple, quand on reçoit beaucoup de mails, comme en revenant de vacances, comme vous en avez parlé, eh ben, on ne sait plus par quel mail commencer, on ne sait plus comment serrer le problème.
Ouais, tout est urgent, donc on ne sait plus où est la réelle urgence.
Oui, c'est ça. Il y a aussi une dispersion de l'esprit et une difficulté à se concentrer, ce qui va de pair avec le point précédent. Et puis, un peu tout lié à ce qu'on vient d'expliquer, il y a les difficultés à faire des choix et la tendance au zapping.
C'est un peu, par exemple, ce qu'on peut ressentir quand vous utilisez, par exemple, des plateformes comme Netflix ou Spotify, etc. C'est que finalement, vous avez tellement de choix que vous ne savez plus quoi choisir. Et puis, cette tendance au zapping, c'est aussi un peu ce qui est reproché ou en tout cas qui sert à caractériser les nouvelles générations, des générations Y, Z et compagnie, en gros les 20-35 ans. Je parlais récemment avec un enseignant, par exemple, qui disait, quand il décrivait ses élèves, qu'ils étaient très surfaciques, finalement, qu'ils restaient en surface des thèmes qu'ils étudiaient et qu'ils n'allaient pas forcément approfondir le truc. Donc, il y a cet aspect d'apprentissage qui peut être aussi impacté par cette infobésité. On imagine bien que dans le travail ou dans la vie privée, ça peut aussi avoir des incidences.
Oui, bien sûr. Alors, c'est sûr, pour reprendre ce que vous venez de dire, au niveau des écoles, au niveau de l'enseignement, c'est quelque chose qui a été perçu il y a déjà un grand moment. La difficulté de concentration de la jeunesse et la tendance au zapping. Quoi. Il faut passer d'une chose à l'autre très rapidement.
Et puis, du coup, c'est difficile d'arriver à intéresser les élèves
de façon continue.
Oui,
de façon continue. Alors, il n'empêche que dans la vie privée des adultes et dans leur vie professionnelle, il semblerait que ça a aussi des conséquences. Parce que c'est pas parce que l'information circule plus vite qu'elle est assimilée plus vite. En fait, au niveau du cerveau, au niveau physiologique, le temps, il y a un certain temps qui est nécessaire. qui a sa propre logique. Et ce temps-là, quand on ne le respecte pas, ben, du coup, ça finit par poser problème.
Malgré ce qu'on dit souvent sur le cerveau, sa plasticité, oui, etc., il y a quand même des limites.
Il y a des limites, oui.
Pour l'instant, on n'arrive pas à dépasser.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ouais,
heureusement, peut-être que c'est bien qu'on ne les dépasse pas non plus.
Oui, après, le problème, c'est l'acceptation de ses limites, quoi. C'est ça, finalement.
C'est ça, hein, aussi.
Ouais, ouais, ouais. Donc, au niveau du travail, on peut dire que, par exemple, il y a peut-être une baisse d'efficacité. Il y a une étude américaine de l'Université de San Diego qui dit qu'un employé moyen consomme à peu près 100 000 mots par jour sous forme de mails, SMS, de recherches Internet, de documentation à lire. Alors, entre autres pour son travail, mais aussi pour, à titre personnel, à titre privé. Et il n'est pas certain que toute cette consommation, cette surinformation serve finalement le rendement professionnel. Donc, on dit à peu près les trois quarts de sa journée à recevoir de l'information plutôt qu'à en produire.
Ouais, c'est ça, ah, c'est que il y a dans ces trois quarts de la journée passée à recevoir des informations, peut-être toutes ne sont pas utiles, en tout cas pour les tâches qu'il a à accomplir. Et en plus de ça, ça c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi une barrière entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui s'amenuise,
qui est plus difficile,
parce que du coup, comme on est toujours sollicité, on a notre smartphone qui sonne parce que votre femme vous rappelle qu'il faut aller acheter du lait, je ne sais pas trop quoi. Et donc, il y a tout qui se mélange, en fait, et voilà, ça contribue aussi à cette surabondance d'infos.
Oui. D'ailleurs, les patrons ne se sont pas trompés, hein. Ils essayent de mettre en place des règles et des lois pour gérer un peu tout ça, parce que c'est effectivement pas forcément rentable au niveau de la productivité. Oui. Après, ce qu'on peut noter, c'est une certaine fatigue psychologique qui risque finalement d'entraîner des burn-out. Ouais. Donc, ça contribue, il y a une contribution de cet excès d'informations à ça, c'est sûr.
Ouais. Des risques d'ailleurs qu'on peut retrouver au niveau privé. Il y a peut-être d'autres choses aussi, notamment dans la vie privée, qui peuvent... on pense notamment à tout ce qui est addiction à l'information, donc ce besoin de toujours avoir, d'être au courant.
D'être au courant de ce qui se passe, une forme d'anxiété face au sentiment de ne pas être informé. Il semblerait que de plus en plus de gens ressentent ça. Et puis, vous parliez dans une chronique précédente des fake news, et on sait que leur augmentation est aussi en partie due à ce déficit d'attention. Par exemple, on estime aujourd'hui qu'à peu près trois quarts des articles partagés sur Twitter ne sont même pas lus par ceux qui les reçoivent et qui les transmettent. Donc, ça contribue.
C'est d'autant plus difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux là-dedans.
Voilà.
Alors, maintenant qu'on a bien cerné le problème, sur les deux minutes qui nous restent, est-ce qu'il existe des pistes pour limiter un petit peu cette surinformation, cette sursollicitation?
Alors, bien sûr qu'il y a des pistes. Hein. Alors, chacun peut trouver sa solution en fonction de sa personnalité, mais bon, il y a des choses simples à faire. Déjà, on peut limiter la publicité sur Internet en utilisant, par exemple, un bloqueur de publicité. C'est très simple à faire, à mettre en place. On peut aussi faire régulièrement le ménage dans sa boîte email. Alors, les gens le font au niveau professionnel, beaucoup moins au niveau privé. Et du coup,
c'est-à-dire faire le ménage, donc bien sûr supprimer les mails qu'on a traités déjà, se désabonner aussi à toutes les newsletters, toutes les listes, en plus mise à jour RGPD, c'est le moment de le faire, toutes les newsletters et les listes de diffusion auxquelles on est abonné consciemment ou inconsciemment, donc ça permet aussi d'enlever pas mal de mails qu'on reçoit. Et puis, il y a un petit bonus.
Ouais, il y a un bonus écologique lié à ça. C'est-à-dire que tout ce qui est mis en mémoire, au niveau physique, ça prend de la place ça consomme de l'énergie dans des data centers. Donc, c'est sûr que si on fait le ménage, on consomme moins d'énergie.
C'est ça, pour le dire rapidement, en fait, tout ce qui est cloud, qui veut dire nuage, hein, ça ne veut pas dire que vos données numériques sont dans l'espace ou dans l'atmosphère, mais il y a bien un emplacement physique. Voilà.
Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on peut bien choisir ses sources d'informations. Donc, peut-être, par exemple, un jour, prendre le temps d'en visiter un certain nombre et puis, après, réserver uniquement l'accès à celles pour lesquelles on a confiance. pour pas avoir une même information apportée par différents canaux.
Et puis pour finir, est-ce qu'on pourrait donner un petit défi à se fixer pendant les vacances de l'été, par exemple ?
Ben oui, on pourrait simplement dire aux gens d'essayer de faire une petite expérience de détox numérique, c'est-à-dire de commencer par exemple par mettre son téléphone en silencieux, et puis après se restreindre à l'éloigner un peu de son corps, le poser à un endroit précis et le consulter seulement une fois par demi-journée ou une fois par jour ou peut-être, pourquoi pas, une fois par semaine, hein, si on y arrive. Je pense que le fait de le tenir éloigné est important parce qu'une fois qu'il est éloigné, on y pense moins, on le consulte moins et puis on se tourne peut-être un peu plus vers les autres. Ce qu'on peut ajouter, parce qu'on a beaucoup parlé de temps et de manque de temps et de consommation de temps, mais en fait, c'est bien du bien-être de l'individu dont il s'agit finalement. Hein. C'est de retrouver une forme de bien-être.
Tout à fait. Eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à essayer, en tout cas pendant cet été. On va se laisser du coup se quitter sur ces mots. Passez un bel été. Essayez de déconnecter. Ça, vous verrez, ça fait pas de mal. Et puis, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles chroniques. Retrouvez toutes nos chroniques sur le site de Radio B et sur altechscience.fr.